Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Claude Bologne.
Bonjour, choisissez avec nous une allusion historique et grâce à Jean-Claude Bologne qui a choisi aujourd'hui l'allusion « Être sur un lit de rose ». Bonjour Jean-Claude Bologne.
Bonjour.
Alors, être sur un lit de rose, c'est la volupté totale. Je suppose qu'il n'y a pas à chercher plus loin la compréhension de l'expression, en tout cas.
Ah, ça se comprend assez directement, oui. C'est symbole aujourd'hui de la douceur, des délices, de la facilité, à condition, bien entendu, que le matelas soit en pétale et non en épine.
Car oui, c'est on ça, oublie... c'est pétale de rose.
On oublie un peu trop facilement que la famille des rosacées comprend aussi le roncier. Aussi, l'expression s'emploie-t-elle le plus souvent à la forme négative.
Donc, je ne suis pas sur un lit de rose.
En général, on n'est pas sur un lit de rose, bien oui. À propos d'une exposition sur l'histoire culturelle des Maghrébins en France, par exemple, un journaliste rappelait récemment que tout n'a pas été un lit de rose, puisqu'il ne fallait pas oublier les conflits, les crispations identitaires, c'est à la mode.
Ça, c'est tout récent? Vous avez vu ça dans un journal récemment?
Dans El Watan, le 18 novembre 2009.
Ah, en effet,
c'est
oui.
C'est tout récent, les emplois sont assez fréquents.
Alors, historiquement, est-ce qu'on peut savoir si vraiment il y a eu un lit de rose qui a existé?
Il y a eu beaucoup de lits roses qui ont existé. Il y en a un, en tout cas, qui n'était pas un lit rose, puisque l'expression, c'est ne pas être un lit rose, plutôt. Il y en a un qui était particulièrement célèbre. Et c'est en effet une anecdote historique, légendaire, en tout cas dans sa formulation, mais pas dans l'histoire, qui est à l'origine de cette expression. Je vous la livre telle qu'elle est rapportée par l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert
à
l'article Mexique. Il s'agit de la capture du dernier empereur aztèque, le 13 août 1521. Je cite... Enfin, au milieu de ces combats, les Espagnols prirent Gatimozin et, par ce coup funeste mexicain, jetèrent la consternation et l'abattement dans tout l'Empire du Mexique. C'est ce Gatimozin si fameux par les paroles qu'il prononça lorsqu'un receveur des trésors du roi d'Espagne le fit mettre sur des charbons ardents pour savoir en quel endroit du lac il avait jeté toutes ses richesses. Son grand prêtre, condamné au même supplice, poussait les cris les plus douloureux. Gatimozin lui dit sans s'émouvoir « Et moi, suis-je sur un lit rose ? » L'anecdote figure à peu près dans les mêmes termes au 147e chapitre de l'Essai sur les mœurs de Voltaire. Est-elle pour autant authentique ? En partie, en tout cas sur l'anecdote, sinon sur sa formulation. Gatimozin, auquel nous avons rendu son nom aztèque de Cuauhtémoc, excusez-moi, je prononce très mal l'aztèque.
Oui, vous prononcez très bien l'aztèque, je trouve.
Merci. C'était le neveu du célèbre Moctezuma et son arrestation signa la fin de l'Empire. Il fut effectivement torturé pour découvrir l'endroit où il aurait caché le fabuleux trésor de son peuple. Comme le cacique de Tacuba, torturé à ses côtés, était prêt à révéler le secret, l'empereur le fit taire de ces mots « Est yo en algún deleite obano » je prononce aussi mal l'espagnol.
Bien, d'accord.
C'est-à-dire, littéralement traduit, « Suis-je dans les délices ou dans un bain, bano ?» Telle est en tout cas la formule rapportée par les chroniqueurs de l'époque, Lopez de Gomara, Chapelain de Cortés en l'occurrence. Et c'est effectivement sous cette forme qu'elle est entrée dans la langue française, puisque nous trouvons dans les essais de Montaigne « Et moi, suis-je dans un bain ?» C'est très prosaïque, il n'y avait aucune chance que Cuauhtémoc entre dans l'histoire avec une remarque
voilà,
aussi banale.
Oui. Mais quand on le dit, ça veut dire que justement on ne l'est pas en fait. C'est étudié et utilisé à la forme positive, mais ça veut dire le négatif.
Oui, c'est une méthode.
On ne l'est pas, voilà,
bons, oui.
Absolument.
Peut-être d'ailleurs d'autres souvenirs littéraires ont-ils enjolivé la mémoire, sinon de Cuauhtémoc, sinon de ceux qui ont rapporté l'expression, puisque une ode d'Horace se plaint de sa maîtresse Pyrrha, qui s'est livré à un jeune garçon au milieu des roses. Et là, nous sommes dans le lit rose historique. C'était en effet une pratique bien attestée dans l'Antiquité romaine de faire rembourrer de pétales de roses des matelas ou des coussins. Par exemple, Cicéron évoque Verrès, mollement étendu dans une litière à 8 porteurs, appuyé sur un coussin d'étoffe transparente et tout rempli de roses de Malte.
On imagine que ça devait embaumer en plus.
Voilà, c'est sans doute là qu'aurait voulu se trouver Cuauhtémoc plutôt que sur ses charbons ardents, à condition bien sûr qu'il ait parlé le latin. C'est toujours très utile de connaître le latin.
Oui, c'est bien la preuve. En tout cas, ces roses, elles nous évoquent évidemment le plaisir, mais aussi une espèce de sexualité lascive. L'odalisque n'était pas sur un lit de rose, pas qu'on sache, mais c'est bien ce que ça nous évoque.
La rose est une plante consacrée à Aphrodite, et effectivement, il il y a dans le symbolisme de la rose non seulement la douceur, le velouté du pétale, mais aussi un symbolisme sexuel assez évident. Il suffit de citer le roman de la rose, la quête de la rose, c'était la quête du corps de la femme.
Voilà, en tout cas érotique. Eh bien, nous aurons tout de même abordé enfin sur Canal Académie un peu d'érotisme, grâce à vous, Jean-Claude Bologne, qui êtes l'auteur, je le rappelle, d'un livre qui s'intitule « Qui m'aime me suive », qui est un livre sur les allusions historiques et qui est paru chez Larousse. Merci et à bientôt pour une autre allusion historique.
À bientôt.